l'initiative locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
FNE Sarthe et l'association CPNS organisent une formation à la préservation de la biodiversité à l'abbaye de Tuffet le 17 mai. Nos jardins abritent une faune et une flore qu'il faut savoir préserver, un enjeu qui trouve peut-être de plus en plus d'écho chez les Français aujourd'hui, si on en croit la récente étude de l'Agence pour la transition écologique. En effet, plus de 4 millions de Français seraient aujourd'hui fortement touchés par l'éco-anxiété. Alors, se mettre en action, serait-ce la solution pour aller mieux? On discute de tout ça avec France Nature Environnement Sarthe. Bonjour Mathilde Després et Blanche Imperiali.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Mathilde Després, vous êtes en service civique pour FNE Sarthe et Blanche Imperiali, vous êtes bénévole de l'association. Alors d'abord, Mathilde Després, expliquez-nous en quoi va consister la formation du 17 mai en fait.
Donc c'est une formation qui a pour but de sensibiliser et partager des connaissances et des bonnes pratiques sur la gestion de nos jardins afin de préserver toute la biodiversité qu'on peut y trouver, donc que ce soit la faune ou la flore. Donc on va pouvoir discuter en faisant un cycle donc de comment on peut préserver cette biodiversité chez nous.
Parce que quand on parle de biodiversité, on parle de quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc on parle des végétaux, des animaux, de l'équilibre qui est fait en fait entre la faune et la flore. Les petites bêtes, les animaux qui viennent, comme les hérissons par exemple, la végétation, donc les pollinisateurs qui vont venir butiner et mettre des graines partout, ça va faire des plantes et ensuite, en fait, c'est un cycle qui va s'équilibrer et on va voir tout ça, comment gérer ça convenablement.
Oui, parce que du coup, si on doit apprendre à préserver cette biodiversité, ça veut dire que cette biodiversité, elle ne se préserve pas elle-même?
En fait, actuellement, on peut trouver pas mal de pesticides, de pollution. Donc, en fait, la biodiversité, quand on coupe, par exemple, la pelouse, toutes les fleurs vont disparaître. Donc, les insectes ne vont plus venir dans nos jardins. C'est ce qui fait que la biodiversité va disparaître. Donc, en faisant, par exemple, des tontes raisonnées, en mettant du compost, on va préserver cette biodiversité et on va voir plein d'insectes qui vont venir polliniser nos jardins.
Donc ça fait partie des gestes faciles à adopter qu'on peut prendre pour préserver la biodiversité des jardins du coup.
Oui, voilà, donc on peut par exemple, sans laisser toutes nos pelouses super hautes, on peut par exemple laisser un petit carré de pelouse assez haute pour donc favoriser tout ce qui est reptiles, les insectes, la végétation. Comme ça, toutes les petites bêtes vont pouvoir venir manger, les plus gros animaux aussi. Sans forcément qu'on les voit, puisqu'on peut faire ça dans un coin du jardin assez éloigné. Et on favorise la biodiversité comme ça chez nous.
Il y a des espèces qui sont spécifiques à la Sarthe qu'on peut trouver dans nos jardins
Alors moi, personnellement, je dirais les serpents, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Après, nous, comme on est l'association un peu des hérissons, on va pouvoir trouver des hérissons chez nous. On peut par exemple faire des abris à hérissons pour leur permettre par exemple l'hiver d'hiberner et puis de se cacher aussi l'été. On peut aussi faire des hôtels à insectes, on va pouvoir attirer les insectes chez nous. Et aussi des nichoirs à oiseaux, comme ça on va avoir plus d'oiseaux qui vont aussi réguler tous les insectes qui entrent.
Et donc la formation est organisée avec l'association CPNS. Comment est-ce que cette association et la FNE travaillent ensemble en fait? Parce que ce n'est pas la première fois que vous faites un événement ensemble, il me semble.
En fait, donc, on est une fédération d'associations, donc on a plusieurs associations membres, dont la CPNS. Et en fait, tous les ans, on a un programme associatif et on essaye d'avoir une association par action qu'on travaille en partenariat. Et donc là, pour celle-là, c'est la CPNS. Donc c'est une association de protection de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on fait ça avec eux, surtout qu'ils sont vraiment habitués à faire des actions à l'abbaye de Tuffet. Donc c'est leur endroit.
Et donc la formation aura lieu à l'abbaye de Tuffet, effectivement. Oui. Vous dites c'est leur endroit, c'est-à-dire il y a une spécificité de ce lieu qui fait qu'ils l'ont choisi pour leurs événements.
En fait, ils sont basés vers l'abbaye de Tuffet, donc c'est vraiment leur secteur. Et ils ont déjà fait des actions, eux, à titre juste de l'association à cet endroit-là.
Alors, cette formation sur la biodiversité intervient peu après qu'une étude de l'ADME révèle l'augmentation de l'éco-anxiété en France. Plus de 4 millions de personnes fortement touchées, dont 420 000 qui développent des troubles anxieux ou dépressifs. Mais alors, peut-être, rappelons d'abord, qu'est-ce que c'est en fait l'éco-anxiété? Blanche Imperiali, est-ce que vous voulez nous en parler?
Donc, l'éco-anxiété, c'est C'est une angoisse causée par la crise environnementale, en fait. C'est à partir d'un certain moment, on commence à se dire qu'il y a peut-être un petit problème quand on écoute les nouvelles et toutes les pertes de biodiversité, la pollution, ainsi que les pesticides. Et ça amène, en fait, ça provoque une profonde inquiétude face au changement climatique et une impression de ne pas, d'impossibilité de changer ou d'arrêter, ou en tout cas d'améliorer les choses, en fait. On a l'impression d'être trop petit face à l'ampleur du désastre.
Alors avant de continuer sur ce sujet, je vous propose d'abord d'écouter l'intervention de Charline Schmerber, psychothérapeute spécialisée sur le sujet. Bonjour Charline Schmerber.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans l'éco-anxiété. Vous êtes donc tous les jours au contact de personnes concernées par cette pathologie. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de pathologie d'ailleurs, en fait, quand on parle d'éco-anxiété ?
Alors non, ce n'est pas reconnu comme une pathologie. Aujourd'hui, l'éco-anxiété, ça provoque une souffrance, mais qui est tout à fait légitime aujourd'hui dans un cadre de catastrophe environnementale. Donc c'est, selon la médecin chercheur de santé publique Véronique Lapège, qui a vraiment théorisé le concept en 1997, Elle parlait d'un mal-être identitaire associé à une responsabilisation nécessaire des hommes, des femmes et des sociétés, mais elle le distinguait vraiment de la pathologie. Quand on voit aujourd'hui l'état de la planète, quand on voit vraiment l'état de la dégradation des écosystèmes, j'ai envie de dire que c'est plutôt sain de s'inquiéter aujourd'hui et c'est plutôt signe d'une conscience qui est plutôt éveillée et du fait qu'on a les yeux ouverts sur l'état actuel de ce que vit notre écosystème.
Est-ce que dans votre pratique, vous constatez qu'il y a des catégories sociales plus concernées que d'autres par l'éco-anxiété ou pas forcément ?
Alors non, ça c'était une... Il y avait des études qui partait là-dessus, enfin, qui disait que les CSP+ étaient plus concernés par les anxiétés. Moi, je m'aperçois que c'est vraiment une question de sensibilité, en fait. C'est-à-dire que ça transcende la question du niveau d'études. On est sensible à ce qui se passe au niveau du vivant, qu'on ait, j'ai envie de dire, un bac+12 ou absolument pas de diplôme, en fait.
Et comment il se manifeste ce trouble, cette éco-anxiété concrètement ? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes, par exemple, dont l'éco-anxiété était devenue vraiment envahissante au point de ne plus pouvoir vivre normalement ?
Alors, il y a des échelles de mesure aujourd'hui qui sont mises en place par les psychologues cliniciens. Il y a des échelles de mesure qui sont différentes, qui sont établies à partir de questionnaires, qui permettent de montrer différents degrés d'éco-anxiété qui peuvent aller des degrés très légers à, pour le coup, pathologiques. C'est-à-dire que parfois, cette éco-anxiété, elle va atteindre un stade où ça devient complètement délétère dans la vie de la personne, invalidant. Et là, pour le coup, cette éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie, mais ça peut devenir, ça peut vraiment rendre malade, ça peut rendre malade le sujet. Vous voyez, avec, ça peut le faire basculer dans une dépression réactionnelle. Enfin, ça peut lui donner des idées suicidaires. Ça peut l'invalider au quotidien avec une forme de paralysie. Des personnes qui vont ne plus pouvoir dormir, qui vont ne plus pouvoir aller travailler, qui vont ruminer en permanence. Et là, c'est très important de pouvoir aller voir un médecin, d'avoir des thérapeutiques, de pouvoir avoir potentiellement des traitements médicamenteux mis en place. Et là, pour le coup, on sort du traitement, enfin de l'accompagnement du psychologue, du psychothérapeute, du professionnel de l'accompagnement. Et là, on va voir un médecin.
Et alors, si cette éco-anxiété qui dégénère, du coup, elle peut conduire effectivement à la dépression et donc à l'immobilisme, est-ce que à plus petite dose, on va dire à dose raisonnable entre guillemets, l'éco-anxiété, ça peut devenir un moteur d'action ?
Cette éco-anxiété, à partir du moment où on arrive à bien vivre avec. Elle est finalement motivante, c'est-à-dire que ces personnes-là réussissent à trouver des actions qui correspondent à leur identité, c'est-à-dire que par rapport à qui ils sont, ils vont choisir de se mettre en mouvement, de s'investir dans telle ou telle association, par exemple, ou de faire des choses au sein de leur foyer, ou de changer leur mode de consommation, ou de décider de faire des vacances différentes, en prenant l'avion, ou uniquement, je sais pas moi, à vélo, ou en prenant le train, vous voyez, en réduisant leur impact. Et vous voyez, il y a une forme de mise en mouvement qui va leur faire du bien. Et ça, c'est finalement quelque chose de vertueux. Mais je pense que la première étape, c'est de pouvoir aller à la rencontre de cette émotion, qu'est l'éco-anxiété, de pouvoir l'accueillir et de pouvoir s'autoriser à pleinement comprendre aussi, de pouvoir mettre du sens sur ce que ça provoque en soi et de pas bloquer tout ça. Et je pense qu'on est dans une société qui n'est pas forcément très portée sur les émotions, sur les émotions qui prennent siège dans le corps. On est beaucoup une société qui met l'accent sur la tête, qui pense. Et je pense que finalement, cette éco-anxiété peut être une opportunité.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, Charline Schmerber, on le rappelle, vous êtes psychothérapeute spécialisée dans l'éco-anxiété. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, Blanche Imperiali, au début de son intervention, Charline Schmerber parle d'une anxiété saine. Est-ce que c'est comme ça que vous qualifieriez l'éco-anxiété de votre côté ?
Disons qu'elle permet ensuite, une fois qu'on la maîtrise, comme disait la psychothérapeute, une fois qu'on la maîtrise, on peut en effet la transformer et l'emmener vers quelque chose qui est plutôt positif pour l'environnement et permet aussi de commencer à réagir, oui.
Et alors,
ça peut être positif.
Et alors du coup, vous aussi, Mathilde Després, en tant que personne engagée dans une association de défense de la biodiversité, de protection du climat, est-ce que vous êtes touchée par l'éco-anxiété ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne ?
Moi, personnellement, non. Après, c'est vrai qu'on voit de temps en temps des personnes qui viennent nous voir ou des nouveaux adhérents donc qui viennent bénévoles, qui se posent beaucoup de questions sur justement le changement climatique, qui veulent vraiment agir pour l'environnement et donc qui viennent nous rejoindre pour aider dans des événements et pouvoir sensibiliser le public.
Il y a des bénévoles qui rejoignent FNESART pour cette raison-là ?
Ben c'est mon cas en tout cas.
D'accord.
Ouais, tout à fait. C'est après le Covid, alors j'avais déjà une légère inquiétude, mais savoir qu'on pouvait commencer à agir aide vraiment à aller mieux, sinon... on peut facilement, ça peut contaminer un peu toute notre vie au quotidien, la famille. On peut commencer à être très, très jugeant par rapport aux gens qui ne saisissent pas l'urgence dans laquelle on se trouve. Et le fait de se rapprocher d'associations environnementales permet d'agir en fait.
Et alors, vous dites que vous souffrez d'éco-anxiété depuis à peu près la période Covid, c'est ça ?
Oui, disons que la période Covid a été un déclencheur plus fort, parce qu'on a plus le temps aussi d'écouter les nouvelles. Et donc, à partir du moment où on commence à prendre le fil et on déroule la pelote, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, tout est lié. Donc, il y a peut-être un vrai gros problème. Donc,
parce que qu'est-ce qui nourrit en fait cette éco-anxiété ? Ça peut plutôt être les catastrophes climatiques ou les réponses politiques insuffisantes, les discours climato-sceptiques, qu'est-ce qui fait que vous êtes anxieuse, quoi ?
C'est un ensemble de ce que vous venez de dire. Ce sont vraiment tout cet ensemble de causes qui peuvent amener cet effet-là. Donc le manque de réaction forte de la part du monde politique, le manque de mise en lien qui peuvent être très très vite faits. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'éveil à ça. Et ça peut très fort jouer sur l'équilibre personnel. Ouais.
Et l'éco-anxiété, c'est quelque chose que vous abordez auprès de votre public pendant vos différents événements ou est-ce que le public vient aussi vous en parler ?
Rarement. Nous, enfin, à France Nature Environnement, on essaye surtout d'agir, donc d'avoir des actions concrètes, ce qui permet d'éviter en fait de partir dans une certaine divagation, en tout cas une certaine de se perdre dans ces anxiétés-là. Et les gens qui viennent veulent vraiment des ont souvent des petites questions bien précises sur des sujets bien précis. Donc on travaille plus là-dessus avec eux et puis surtout l'information.
D'accord, donc on revient à ce qu'on disait, c'est convertir l'éco-anxiété en action concrète.
Ouais.
Alors en tout cas, si vous êtes éco-anxieux et que vous voulez en faire quelque chose d'utile, on le rappelle, la formation à la préservation de la biodiversité par FNE Sarthe et CPNS, ce sera le 17 mai et il est toujours possible bien sûr de s'engager en tant que bénévole. Je vous remercie Mathilde Després, service civique pour FNE Sarthe, et Blanche Imperiali, bénévole de l'association. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'initiative locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.